franceinter.fr.
PDG 10597. USTC sans bravo. Un gardien, deux ADS, dont un féminin. PDG 10599. Fin de service 19h30. Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Crime ou accident, c'est la justice qui tranchera dans l'affaire Théo, le jeune d'Aulnay-sous-Bois qui accuse quatre policiers de l'avoir brutalisé et violé. Quoi qu'il en soit, cette histoire a ravivé les tensions entre police et population dans les quartiers défavorisés, essentiellement en Ile-de-France. Des émeutes ont éclaté en marge de rassemblements de soutien. Les incidents se multiplient malgré les appels au calme lancés par Théo lui-même et par ses proches. Sur la sellette, les méthodes policières. Alors même que la police est traversée par un profond malaise, on a abondamment parlé des problèmes de matériel. Ces voitures au kilométrage astronomique, ces ordinateurs dépassés, ces photocopieurs en panne. Mais il y a aussi la lassitude engendrée par deux années d'état d'urgence, le poids des procédures, une formation souvent insuffisante. C'est tout ça qui s'exprime dans les manifestations spontanées, dont le déclencheur a été l'attaque d'une voiture de patrouille en octobre à Viry-Châtillon. Deux policiers ont bien failli y trouver la mort. Nathalie Hernandez a enquêté plusieurs semaines sur ce malaise au sein même de la police. Le prénom ou la voix de certains de ses interlocuteurs ont été modifiés pour des raisons de sécurité. Le tournage au cœur d'un commissariat a pu être réalisé grâce aux autorités et donc sous leur contrôle. Et on se rend compte qu'il est bien loin ce 11 janvier 2015, ce dimanche de manif après l'attaque de Charlie Hebdo, où les manifestants fraternisaient avec la police. Depuis, les policiers sont retournés à leur quotidien, avec en plus la peur au ventre, depuis que deux d'entre eux ont été assassinés à Magnanville par un membre de l'organisation État islamique. Viry-Châtillon, Magnanville, deux traumatismes pour tous les flics de terrain. Police, le blues et la matraque, c'est un reportage de Nathalie Hernandez.
Interception, le magazine de la rédaction.
Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. Quatre policiers en garde à vue à la police des polices. Ils sont accusés de viol par un jeune de 22 ans interpellé à Aulnay-sous-Bois. Une information judiciaire devrait être ouverte demain.
France Inter.
Il réclame justice pour Théo et n'oublie pas Adama, Zied et Bouna. Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux jeunes, se sont rassemblées donc cet après-midi devant le tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Les manifestants espèrent que justice sera rendue.
Ils font ça pour défendre Théo déjà et toutes les bêtises qu'ils font, casser tout ce qu'ils font et tout, mais ils doivent continuer parce que dans tous les cas on n'aura pas justice parce que Théo c'est un noir, ça sera un blanc, on aura enfoncé une matraque dans le cul d'un blanc, ça se serait pas passé comme ça. Il y aurait eu justice pour lui, mais là impossible. C'est le dernier recours.
Une esplanade jonchée de pavés, la gare routière ravagée, la devanture de la poste en morceaux, plusieurs distributeurs de billets explosés au marteau. La trésorerie générale et le conseil départemental ont aussi été visés, sans parler du McDo et de deux supermarchés saccagés, dont le Franprix d'Akermi qui a rouvert ce matin après une nuit de nettoyage. Mais il revit les événements d'hier en boucle.
Ils ont commencé avec l'injustice, ils ont dit on est tous avec Théo, mais après devient la casse, vol, après ça, sont bêtes.
Sandra, jeune maman, est sidérée.
En arrivant là, je vois les dégâts qu'il y a. C'est impressionnant, mais c'est abusé, quoi. Il faut de la justice pour cette personne, mais il y a d'autres solutions. Qui va faire la justice pour les gens à qui ils ont cassé les voitures, à qui ils ont brûlé? Moi, ça m'énerve.
Et moi, dans la population, et consternation dans la police, un double sentiment partagé par Pierre. Il est policier depuis 9 ans en région parisienne.
Le premier sentiment, ça a été la honte. Comment on peut être crédible et légitime dans nos interventions si personnes de notre corps se comportent de la pire des manières, comme des voyous? Je pense qu'il est évident qu'il faille faire le ménage, si je puis dire, dans nos propres rangs, pour regagner en crédibilité.
Mais comment on en est arrivé là, une telle haine anti-flic et une telle violence de la part de certains policiers?
Je pense que les policiers sont soumis à rude épreuve. Alors je ne souhaite pas excuser les comportements de mes collègues en ligne, qu'on soit bien clair, mais je pense que tous les policiers sont soumis à rude épreuve, de par la politique appliquée déjà en interne dans la police, hein, les baisses d'effectifs, les statistiques à outrance, ont fait qu'on se concentre uniquement sur du résultat qui n'est pas forcément en lien avec l'efficacité réelle de la police. en interne, on a une pression constante de résultats. Le second point, c'est que forcément, on a abandonné la police de proximité pour des raisons plus ou moins politiques. Et au lieu de garder cette innovation, on l'a complètement détruite au point de les remplacer au jour d'aujourd'hui par des BST, les brigades spécialisées de terrain, qui sont certaines formes de police de proximité, si on peut appeler comme ça, puisque c'est des unités qui sont spécialisées dans les zones de sécurité prioritaires. Donc le problème, c'est que maintenant, on leur demande plus de faire le lien avec la population, on leur demande de tenir le terrain. Ça veut dire clairement occuper les espaces où il pourrait y avoir, par exemple, des trafics de stupéfiants. Et pour ça, ben, on impose la présence physique, une présence musclée. Je veux dire, la BST n'a rien à voir avec la police de proximité de l'époque. Les BST sont maintenant équipés d'armements, de moyens qu'on appelle intermédiaires, avec les tasers, avec les lanceurs 40, avec des grenades lacrymogènes ou autres. Et on voit très bien que l'équipement doté de ces unités n'est pas fait pour apaiser et au contraire répondre, on va dire, à la violence. Et forcément, ben, quand on demande de tenir le terrain, c'est pas forcément dans un but de louable de rapprocher la population, mais au contraire de montrer que la police est présente et qu'elle est présente en force, et que force doit rester à la loi. Quand ils font des contrôles, ils s'estiment que la légitimité est naturelle, de par leur qualité, leur fonction, et ils ne peuvent pas imaginer qu'on puisse s'opposer à tout type de contrôle. Donc je pense qu'il y a un sentiment d'abandon de la part des policiers, de la part des pouvoirs publics en général dans ces quartiers, mais aussi de l'administration policière en interne, puisque rien n'est mis en œuvre pour rapprocher justement la police et la population.
Qu'est-ce qu'il faut changer ?
Je pense que, au-delà de, déjà d'une profonde remise en question de l'appareil policier, des stratégies qu'on peut adopter, je pense que il y a un gros problème de formation, déjà dans un premier temps. Beaucoup de policiers sont originaires de province et sont parachutés en région parisienne avec une formation théorique qui n'a rien à voir en plus avec ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc forcément, pour quelqu'un de province, passer d'une cité à 3 étages à une cité de 20 étages dans un milieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, dont on ne connaît pas les codes, il y a forcément déjà un choc. Et au-delà de ça, ben, dans ces quartiers-là, je pense que l'expérience des policiers devrait être la norme pour le recrutement dans ce genre d'unité, puisqu'on ne peut pas mettre des jeunes policiers non formés dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas pour leur dire tenir le terrain. C'est, forcément, il va y avoir des dérapages.
Jean-Baptiste Salvin, Jessica Schneider sont morts pour la France. Depuis janvier 2015, les forces de sécurité ont payé un lourd tribut pour protéger nos concitoyens contre le terrorisme. Aux côtés de Jessica et de Jean-Baptiste, les noms de Franck Brinceau-Larreau, d'Ahmed Merabé, de Clarissa Jean-Philippe sont inscrits pour toujours dans notre mémoire.
Il y aura un avant et un après Magnanville, un couple de fonctionnaires assassinés à leur domicile sous les yeux de leur petit garçon. Le choc est immense. Gaël et Jérôme sont policiers, ils sont aussi les parents de 2 petits-enfants. Ils nous reçoivent chez eux après leur journée de travail.
Moi, j'étais à mon domicile puisque j'étais en congé maternité. Parmi les attentats qui ont été subis sur notre pays, je dirais que c'est vraiment celui en tant que fonctionnaire de police qui m'a le plus marqué. Parce que dans le cadre de notre travail, nous sommes des cibles. Mais là, il y avait quelque chose vraiment de beaucoup plus particulier, à savoir que ça s'est passé dans un foyer, au sein d'une famille. Et moi, justement, j'étais sur le point d'élargir la mienne.
Et vous, Jérôme ?
Moi, je pense que sur le coup, c'est vrai qu'on ne nous dit pas que c'est une attaque terroriste. C'est au bout de quelques heures qu'on apprend exactement que c'est ça. C'est marquant, quoi.
Je dirais que cet acte, qu'il soit terroriste ou pas, par rapport à notre profession, ça change finalement pas grand-chose. Parce que lorsqu'on a une personne en garde à vue face à nous, il y a forcément toujours un rapport de force. Donc le but, c'est de ne pas baisser les yeux, de ne pas se laisser impressionner. Mais là, ça s'est passé. Et là, pour moi, ça a remis en cause, pas ma façon de travailler, mais quand parfois j'avais un rapport de force avec quelqu'un, que j'envoyais cette personne en déferment, Je me dis, qu'est-ce qui peut se passer après? Est-ce que cette personne peut m'attendre? Est-ce que je dois prendre mon arme? Est-ce que quand je garde ma voiture devant chez moi, je dois me retourner? Est-ce que... C'est des questions que je me suis posées, effectivement. Au final, j'ai décidé de poursuivre tel que je l'ai toujours fait. Et sinon, au niveau de notre foyer, non, on n'a pas changé de choses en particulier. Par contre, on en a discuté tous les deux, à savoir si un jour on venait à mourir en même temps, qu'est-ce qu'on ferait de nos enfants? Qui les garderait? Ça, effectivement, on y réfléchit.
Et vous?
Quand j'arrive à la crèche, même si l'entrée est sécurisée, qu'il faut composer un code, tout ça, je vois cette pauvre porte avec un code à composer. Bon, un coup de pied, clairement, voilà, ça passe. Et c'est pas en mettant un agent de sécurité devant chaque crèche que ça changera les choses.
Est-ce que vous hésitez à dire quel métier vous faites quand vous rencontrez des gens?
Non, moi, j'ai pas à cacher mon métier. Si la personne, ça lui plaît pas, voilà. Je suis très fier de ce que je fais. Ça a jamais été une vocation, mais par contre, voilà, je suis heureux de mon métier. J'aime ce que je fais. J'aime l'ambiance qu'on a au sein des collègues. Et puis avec ma femme, voilà, on a le boulot, on a notre vie perso. On arrive, c'est très complémentaire. Donc, non, je cache pas.
Et vous, Gaëlle?
Non, je cache pas non plus mon métier. Si on me demande ma profession, je le cache pas. En revanche, ce qu'on a fait, suite à Charlie, effectivement, on a retiré notre téléphone de l'annuaire téléphonique. Parce que nos procès-verbaux qu'on établit lors d'une procédure sont à nos noms. Et on ne voulait pas que quelqu'un qui reçoit une convocation en justice avec notre nom dessus puisse nous retrouver sur l'annuaire.
Est-ce que parmi vos collègues, il y a eu des réactions plus radicales après Magnanville, plus d'angoisse que ce que vous nous racontez?
Non, je dirais pas. Par contre, effectivement, on a constaté beaucoup plus de collègues qui rentraient chez eux avec leur arme, surtout à partir de Charlie, où ça a vraiment commencé à se dire « dans les transports, j'aurai mon arme, je pourrais intervenir », ce genre de choses. Juste être un peu plus vigilant. Dès qu'il y a un attentat, tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde est solidaire. On met des mesures, il y a des contrôles partout, les portes des commissariats sont surveillées. Moi, je suis revenue de congé maternité. Après 4 mois d'absence au service, je me présente avec un monospace à l'entrée du parking. Les nouveaux fonctionnaires ne me connaissaient pas, on m'a laissé rentrer. Et ça, je comprends pas. On est pourtant encore en Vigipirate. Je ne comprends pas qu'on ne me demande pas de présenter ma carte. Et je trouve que pour chaque entrée de commissariat, pour chaque parking, on doit systématiquement présenter sa carte, voire même ouvrir son véhicule. Car pourquoi un policier ne pourrait pas avoir été à un feu juste avant, être pris à partie? Pourquoi des gens ne seraient pas dans son véhicule? On ne sait pas, il peut se passer tout et n'importe quoi. Ça me choque parce que je me dis que la population parfois relâche sa vigilance, soit... Mais nous aussi, parfois, on la relâche. À chaque attentat, malheureusement, effectivement, on essaie de changer 2-3 choses, et puis le naturel revient. Mais moi, je me dis, si mon mari était tué dans un attentat, je serais dans la haine, je serais dans la violence. Mon enfant va dans le concert à un Bataclan, on m'annonce qu'il est mort comme un chien, abattu. Bien sûr que je serais dans la haine, dans la violence. Alors, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire que oui, on est dans la haine et on est dans la peur? Moi, je suis policière, je suis une citoyenne française, mais j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai les yeux ouverts et je suis consciente de ce qui se passe. Dire que je n'ai pas peur, c'est d'être d'une naïveté absolue pour moi. Et de penser, alors pendant un temps, j'avais l'impression que tout le monde disait « oui, moi je vais à une terrasse de café, j'effectue un acte héroïque ». Mais c'est pas ça être un héros. Être un héros pour moi, c'est quand il y a une jeune fille qui se fait emmerder dans le métro. Être un héros, c'est de se lever et dire au mec « stop là ». Parce que j'ai l'impression que ça commence là, c'est la première échelle.
Est-ce qu'avec les attentats, vous avez quand même pas vu des choses positives?
Si, moi un peu des, mais plus sur Paris, et je pense que les gens qui habitent en périphérie de ces lieux ont été, eux pour le coup, je pense vachement marqués par ce qui s'est passé, et ont réalisé à quel point ils avaient besoin de leur police. Avant tout, moi je bosse pas pour les chiffres, je bosse parce que derrière il y a un résultat, il y aura une personne qui m'aura dit merci, grâce à vous, voilà, ça s'est amélioré, vous faites des choses pour nous, quoi.
Sur la rive gauche de la Seine, l'hôtel de police de Rouen avec son millier de fonctionnaires. Son quotidien rythmé par les dépôts de plaintes, les journées qui s'étirent, les gardes à vue qui s'enchaînent. Dans cette ruche de verre et de béton, le 26 juillet 2016 vers 10h, un appel sur les ondes restera à jamais gravé dans les mémoires. À quelques kilomètres de là, le père Jacques Hamel vient d'être égorgé par des terroristes à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Commissariat de Rouen, bonjour.
Caroline, on est dans votre bureau, vous êtes commissaire de police, vous travaillez à Rouen depuis combien de temps ?
Ça va faire 4 ans là maintenant, je suis arrivée en sortie d'école de commissaire et j'étais affectée justement à Saint-Étienne-du-Rouvray sur la division sud puisque l'agglomération rouennaise est divisée en 3 territoires.
Vous avez été appelée le jour de l'attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray, est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Alors on a eu effectivement un appel radio signalant des individus qui étaient rentrés dans l'église puisqu'effectivement c'est une des religieuses qui a pu prendre la fuite et qui nous a donné de très bons éléments hein, sur la situation qui se passait. Et effectivement on est tous partis de suite en sachant sur quoi on allait, enfin sur quoi. On savait qu'on était sur une matière terroriste, on savait qu'a priori il y avait au moins un mort, voire deux, mais après on ne savait pas s'il y avait des individus à l'extérieur, s'il y avait des explosifs. Ça, quand on est parti, on ne savait pas. Autant, on nous a préparé sur les attaques, on nous a donné des protocoles d'action, notamment sur le fait qu'on partait en position, en groupe, presque d'attaque. On n'est plus sur des phases de négociation à l'ancien temps où c'était ça. Où on parlait pendant des heures et des heures avec les individus pour essayer de leur faire lâcher prise. Et là, on savait que non. Bon, ça fait 20 ans que je suis dans la police. Ce jour-là, je suis partie en me disant que peut-être je n'allais pas revenir. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'est juste... Et ça, c'est très perturbant. Après, à gérer, voilà, on envoie un petit SMS à la famille, on dit « tout va bien ». On est dans... la vie bascule un peu.
Comment on gère psychologiquement sur place et après ?
Sur place, on ne gère pas. Il faut y aller. On ne réfléchit pas à soi. Voilà, on est sur de l'opérationnel. Il faut gérer l'événement, c'est sauver des vies, sauver nos vies. C'est protéger et effectivement aller dans l'action. Moi, j'ai dû réfléchir 3 ou 4 jours après. Notamment, nous, on s'est rendu compte, moi, sur Saint-Étienne-Rouvray, j'ai plein de trous noirs. On est tellement concentré sur quelque chose qu'on ne voit pas tout le reste. Et puis, voilà, il faut gérer et ma famille. Voilà, si je n'étais pas revenue, il y a tout ça. Parce qu'il y a la vie d'à côté. Et notre vie, et on embarque avec nous, effectivement, toute notre famille quand on part sur ça. Nous, en tant que hiérarchie, c'est une des premières choses qu'on fait quand, effectivement, il y a un événement, on déroule, on prend contact avec l'équipe de psychologues, on leur explique les faits, et on essaye de voir à quel moment il est opportun de pouvoir ouvrir ces discussions avec des personnes, des sachants, on va dire. Et surtout... On essaye de faire le débriefing opérationnel d'abord, parce que c'est bien de parler tactique, et après, soit en petit groupe, soit en individuel, en fonction de l'événement à gérer, parce qu'il y en a qui ont des ressentis, on a tous des ressentis différents. Donc en groupe, sur une petite unité, ça peut être important, parce qu'effectivement, il y a cet esprit quand même de solidarité hein, qu'on a sur ce genre d'événement. À Saint-Étienne-du-Rouvray, normalement, on est parti, on n'était pas nombreux.
Combien vous étiez ?
Les effectifs présents, sans compter avec les colonnes d'assaut, on devait être une petite soixantaine. Mais dès que tout le monde a entendu l'appel radio sur tous les sites, tout le monde est sorti. Et les personnels qui étaient chez eux, qui ont entendu les radios, sont venus. C'est-à-dire que les gens qui étaient hors service se sont présentés d'eux-mêmes, se sont équipés. Et voilà, on dit, il y a besoin, on est là. Sur des moments comme ça, aussi forts, c'est là où on se dit qu'on a quand même tous la conviction de faire et d'aimer notre métier. Le sentiment d'avoir à protéger, quel que soit l'heure et le moment.
Qu'est-ce que vous dites à vos hommes ?
Je suis comme eux, hein. J'ai le même sentiment qu'eux, où effectivement, on est sur de la libre parole hein, entre nous. Mais que si on fera tout pour éviter que ça revienne, hein, tous, on est très vigilants. Par contre, où effectivement, la première protection qu'on puisse se donner, c'est d'être vigilant par rapport à notre environnement.
Enfin, là, on peut se mettre à côté du service de car où ils vont présenter l'affaire.
Tous sont mis dans le local de rétention ici, à côté.
Là, vous allez en randonnion et sous surveillance, forcément, puisque là, on les contraint à rester effectivement dans l'hôtel de police. Et là, il y a un personnel de l'équipage qui va voir l'officier de car et qui va présenter l'affaire pour savoir ce qu'on va faire, ou effectivement des individus, si on fait une audition libre ou si on fait un placement en garde à vue.
Bonjour. Vous avez été interpellé avec ceci. C'est de l'héroïne, c'est ça? D'accord. Donc en votre présence, on va le peser. Il ne doit pas y avoir grand-chose.
Non.
Cependant, vous êtes connu pour des faits similaires.
Tout à fait. Hein,
et vous êtes sans domicile fixe, c'est ça?
Ouais, exactement.
D'accord. Donc pour avoir une réponse immédiate du parquet, je vous placerai en garde à vue. Mm-hmm. Donc on va vous auditionner. On fera un compte rendu dans la foulée. En fin de soirée, vous serez sorti. Ok? Au niveau de vos droits, monsieur, famille, médecin, avocat, est-ce que vous voulez qu'on appelle quelqu'un de votre famille?
Non, j'ai plus personne en famille.
D'accord. Est-ce que vous avez besoin de voir un médecin? Vous avez des problèmes de santé?
Dans l'immédiat, non, mais bon, après, d'accord. On peut mettre sous réserve.
Vous voyez, pas de souci. Est-ce que vous avez besoin de voir un avocat?
J'en ai pas.
D'accord, ok. C'est parfait. Donc à l'issue de votre placement en garde à vue, on va vous auditionner, hein, comme je vous ai dit. Et on fera un compte rendu au magistrat. D'accord? C'est parfait. Tu peux le ramener dans le petit rôle. Je suis au bout dans 5 minutes, monsieur. En train de faire les papiers. Interpellé sur l'agglomération de Rouen, 520 000 habitants, nous est présenté. Donc en fonction du délit, savoir si c'est contraventionnel ou délictuel, enfin infraction, c'est à nous de juger selon le compte rendu des collègues. Là, pour cette affaire-là, justement, c'est une simple consommation, enfin détention de produits stupéfiants. Donc pour une affaire simple, comme celle-ci, on est obligé de le placer en garde à vue pour attendre le résultat du magistrat. On me l'a présenté, je l'ai placé en garde à vue, en notifiant ses droits, et après je retranscris tout ce qu'on s'est dit sur l'ordinateur, sur papier. Sur un dossier comme ça, qui est très simple, qui a énormément de papiers, d'actes, faut que je notifie sa garde à vue, ses droits, l'avis au parquet, on va l'auditionner. Après on fait tout ce qui est signalisation de ce monsieur, donc empreinte, photo. Après on fait un compte rendu au magistrat, qui nous donne une décision judiciaire. Et la fin de garde à vue. Pour une procédure vraiment simple, il y a à peu près 8 procès-verbaux. Après, il y a des dossiers, il y a des procédures qu'on a qui montent à une centaine de procès-verbaux. Donc, à chaque fois, on multiplie tous les actes par personne. Donc, ça met du temps.
Comment vous faites en grosse période d'affluence? Comment vous vous organisez?
C'est de l'abattage, tout simplement. On essaie de prioriser le temps, de faire très rapidement. Donc on accorde moins de temps, on demande aux collègues dans les comptes rendus d'être concis et précis pour prendre une décision, puisque nous, on a seulement une heure entre le moment où il est interpellé pour lui notifier ses droits. Donc nous, on a des interpellations qui ont lieu à Elbeuf, qui se trouvent à 30 km d'ici. Donc si c'est dans une horaire de bouchon à 17h, on nous présente, on a 5 minutes pour placer quelqu'un en garde à vue. Donc il faut aller extrêmement vite.
Aujourd'hui, vous avez commencé à quelle heure, Franck?
7h. 7h du matin, prise de service.
Et vous allez jusqu'à quelle heure?
Logiquement, c'est 18h, le minimum.
En une journée, combien vous traitez de dossiers?
C'est très aléatoire. Nous, le service de car judiciaire, on peut commencer à aucune garde à vue et finir le soir à une vingtaine. C'est selon les gens qu'on nous ramène, puisque c'est du tout venant. C'est comme les urgences médicales, c'est exactement ça. On commence le matin, ça peut être très calme. Ce matin, c'était relativement calme, et on a rentré du monde toute la journée. On fait aussi tout ce qui est enquête d'essai, où les personnes qui sont décédées sur la voie publique ou à domicile avec un obstacle médico-légal. L'année dernière, on a géré 256 enquêtes d'essai en une année. Donc ça nous prend un temps important.
L'accueil de l'école de police de Rouen, bonjour. Oui. Non, plutôt de la personne qui l'a rédigé. Alors, vous écrivez ça comment, madame ? Inquiétez pas, hein. Je fais une recherche pour voir si je peux vous la passer directement.
Moi, je suis psychologue à l'hôtel de police de Rouen depuis 10 ans. Je travaille au service du public, c'est-à-dire les usagers de la police. Je ne suis pas la psychologue des policiers. Les policiers sont mes collègues de travail. Je ne suis pas policier, mais je travaille avec eux, en quelque sorte, pour eux aussi, ça peut être une aide à l'enquête. Préparer quelqu'un à un dépôt de plainte, ça facilite le travail du plaintier.
Jeanne fait partie de la cinquantaine de psychologues qui interviennent dans les commissariats en France.
C'est assez déconcertant au départ, parce que mon poste a été créé il y a 10 ans, il n'en existait pas d'autres en France, donc c'était très innovant. Il a fallu apprendre à travailler avec une institution et ses représentants qui étaient peu habitués à travailler avec l'extérieur. Donc j'ai dû découvrir l'institution pour pouvoir bien me mettre en, on va dire, en cohérence avec les différents policiers, comprendre les missions des différents services, savoir comment me positionner et que eux apprennent aussi à m'accepter dans leur façon de faire. Ça s'est fait très facilement. J'ai trouvé peu de résistance. C'est moi qui avais le plus de préjugés en fait. Et c'est ça qui a été intéressant. Donc j'ai découvert un monde passionnant avec des femmes et des hommes. Très impliqués, alors parfois avec des difficultés parce qu'on ne travaille pas bien avec tout le monde, hein, c'est pas un monde idéal. Il y a aussi certaines résistances pour des gens qui sont plus fragiles ou qui sont eux-mêmes en difficulté dans leur poste de travail ou dans leur vie personnelle. Mais comme moi, j'étais pas là pour être en soutien ou en menace vis-à-vis de leur posture professionnelle, je viens rajouter quelque chose. Donc on a appris à se connaître et je crois qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à travailler dans un autre milieu.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez découvert alors de si particulier ici ?
J'ai découvert qu'on était dans un rapport à l'autre contraint par beaucoup de choses extérieures. C'est-à-dire qu'un policier ne fait pas du tout ce qu'il veut, il dépend avant tout des magistrats et de sa hiérarchie. Un policier peut avoir envie humainement de faire ci ou ça, mais il ne va pas pouvoir le faire pour ces contraintes-là même. Et alors j'étais jeune professionnelle, hein, je suis arrivée, ça faisait 6 mois que je travaillais. Donc je ne connaissais rien au monde du travail, clairement. J'ai vu aussi qu'il y avait des missions qui étaient parfois impossibles à réaliser. Ça crée de la frustration, ça peut créer aussi de la colère. Il y a de l'épuisement professionnel, donc tout ça, il faut composer avec.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez beaucoup de préjugés, qu'ils étaient tombés. C'était quoi vos préjugés ?
Qu'un policier s'était borné, qu'un policier pouvait être insensible et qu'un policier se devait d'être assez hermétique au public. En fait, j'ai découvert que c'est un métier extrêmement riche humainement, où on se pose beaucoup de questions. Des personnes qui cherchent à s'améliorer, des policiers qui sont parfois en souffrance aussi, dans un manque de reconnaissance. Et aussi, ce que j'ai découvert dans le monde du travail, c'est qu'un manque de moyens humains, c'est-à-dire qu'il manque du personnel pour prendre en charge correctement un public qui est en demande, qui est exigeant, et le service public peine de ce manque de personnel.
Attentats, manifestations anti-loi travail qui dégénèrent, pression du quotidien, l'attaque de Viry-Châtillon le 8 octobre 2016 va déclencher une fronde sans précédent chez les Bleus. Du baiser après Charlie au gaz lacrymo des manifs, l'incompréhension est montée dans les rangs de la population. Sandra, Gaël, Alexandre et Stéphane, citoyens et policiers, ont décidé de monter un collectif. Ils sont allés à la rencontre des policiers lors de leur dernière manifestation le 26 janvier.
Ce collectif est issu en fait des mobilisations contre la loi travail et les nuits debout du printemps de l'année dernière.
On a commencé à s'interroger en fait sur comment on en était arrivé là. J'ai voulu comprendre pourquoi là, à l'instant T, on subissait ça en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait la violence engendrait la violence, que le niveau de violence montait de chaque côté, que la division se creusait et que si on commençait à essayer de faire un pas vers l'autre, on allait recréer un échange pour mieux se comprendre et peut-être calmer un peu les tensions.
Sandra, c'est un pari un peu une utopie de recréer un lien entre les citoyens et les policiers.
On est assez utopiste au départ, mais en fait, depuis plusieurs mois maintenant, on s'aperçoit en fait que ça fonctionne finalement. On s'aperçoit que cette intuition de départ qu'on a eue, en fait, on n'a pas tort de l'avoir eue, parce que en allant voir les policiers, ça prend du temps de gagner leur confiance, mais une fois qu'elle est gagnée, en fait, on arrive à établir réellement un dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Le but, en fait, c'est pas du tout d'essayer de tomber d'accord. Le but, c'est d'essayer déjà de se parler, de se comprendre, de se respecter, pour essayer de sortir de cette haine qu'on nous vend comme inéluctable, en fait. Et finalement, ça fonctionne au quotidien au sein du collectif, déjà, parce que c'est assez inédit, je pense, d'avoir des citoyens et des policiers, des citoyens issus de plutôt d'une mouvance contestataire. C'est assez inédit en fait d'avoir ce dialogue-là et en fait on s'aperçoit qu'il fonctionne.
Alexandre, vous êtes policier. Qui vous a contacté et pourquoi vous avez accepté de faire partie de ce collectif ?
On voyait qu'il y avait un problème de violence de chaque côté avec de plus en plus de violence. Et en tant que policier, on analysait que c'était par un manque d'ordre cohérent et que ça faisait des blessés de chaque côté en fait. Que les gens violents en tête des cortèges n'étaient pas interpellés ou mis à l'écart, et ce qui faisait que les policiers se faisaient agresser pendant des heures et les manifestants qui passaient après se prenaient des coups alors qu'ils n'avaient rien demandé. Donc ça fait un engrenage de la violence et j'avais participé le 18 mai à la manifestation Stop à la haine anti-flic d'Alliance et donc il y a eu une petite vidéo qui a été faite à ce moment-là et c'est suite à ça que Sandra et Gaël ont pu m'appeler en se disant voilà, on a le même objectif, c'est de pouvoir dialoguer, de comprendre les choses et de faire comment apaiser les tensions, que la liberté soit d'expression soit faite, qu'il n'y ait pas de blessés et le moins de violence possible en fait. Donc allant de là, voilà, on s'est dit qu'on allait remettre la police en tant que service public. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de la question que les profs ils sont là pour enseigner dans les écoles. Les policiers devraient être là juste pour assurer la sécurité et la sûreté de la population en faisant respecter les lois. Et donc on ait les moyens et les ordres cohérents pour que ça aboutisse à ça. Voilà. Et donc à partir de là, on s'est dit on a toutes les cartes en main pour avancer ensemble en fait.
Policiers en colère, citoyens
solidaires,
policiers
en colère,
citoyens
solidaires,
policiers
en colère,
citoyens
solidaires.
Alors nous on est issus des mobilisations contre la loi travail et contre les nuits debout du printemps dernier. En fait, et on peut pas nier que ça s'est pas très très bien passé. Et justement, on a eu envie de créer ce collectif pour pouvoir aller à votre rencontre, pour pouvoir essayer de mieux vous connaître, pour que vous puissiez mieux nous connaître aussi, pour pouvoir essayer d'échanger et faire en sorte que ces parties-là de la population, qui sont peut-être pas dans les 80%, mais peut-être dans les 20%, puissent essayer d'établir un dialogue.
Mais vous savez, la grande majorité des personnes qui étaient présentes pour les Nuits Debout suite aux lois travail, ça, c'est, en grande majorité, je dis bien en grande majorité, ça s'est plus ou moins bien passé. Ce qui se passait mal, c'était tout ce qui était à la marge, qui était au périphérique. Le peuple a le droit de manifester. Heureusement qu'il a ce droit-là. C'est un droit qu'on ne peut pas le bouger, il est comme il est. Mais c'est tout ce qui était à la marge. Je suis désolé, quand on vient manifester avec des cocktails Molotov, avec une cagoule, avec de quoi en découdre avec les gens qui sont en face de vous, vous n'êtes pas pour manifester, vous n'êtes pour détruire. Mais de là à dire que la police était automatiquement là pour une répression donnée qui viendrait de l'État qui dirigerait, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Ce genre de manifestation-là reste un gros problème pour nous policiers. Pourquoi ? Parce que nous avons en face de nous des gens comme vous, pacifistes, qui viennent réclamer un droit, qui viennent dire quelque chose qui ne va pas, tout à fait normal. Et dans le même temps, vous avez des personnes qui viennent s'imbriquer à ces manifestations-là, qui, elles, viennent pour détruire, et casser du flic ou casser, entre guillemets, ce qui ne pouvait pas leur convenir personnellement. Donc à ce moment-là, comment réussir à faire le parallèle entre ces personnes-là, en sachant que juste la tenue pour changer d'une personne pacifiste comme vous à une personne qui a envie de casser, c'est de mettre votre écharpe au niveau hauteur des yeux et de baisser votre casquette. Là, vous avez vu, le comportement change en 5 secondes. Moi, en tant que policier, je ne peux pas le faire. Je suis habillé, je suis avec une tenue, je suis avec un casque, je suis avec un bouclier et je reste là, je réécoute et mon comportement ne changera pas. Je serai obligé d'activer une riposte parce qu'on va m'agresser. Mais tandis que l'autre qui est en face, il se change. 5 secondes après, il prend le métro d'à côté, il repart chez lui, il est habillé normalement.
Pensez au truc, c'est une bonne idée.
Le fait de vouloir un dialogue entre la police et les citoyens.
Bah oui, c'est une bonne idée parce qu'effectivement ils savent pas tout. Ils savent pas ce qu'on dit, ils savent pas qu'on peut les aider, qu'on est là pour ça, quoi.
Ça c'est un sentiment très fort que vous avez. Hein.
Moi je suis rentrée dans la police pour ça. Moi c'est mon but, c'était d'aider les gens, les secourir. C'est ma vocation.
Et à votre avis, qu'est-ce qui peut créer le fossé entre la police et la population ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un éloignement ? C'est politique ? C'est les événements ?
Ouais, je pense que c'est les événements. Après, Je pense qu'ils ont quand même conscience qu'on est là pour eux, mais ils ne le voient pas. Ils voient que le côté répressif envers eux et pas ce qu'on fait pour eux. Parce qu'au final, ce qu'on fait de répressif, c'est pour prévenir d'autres choses derrière.
Comment on pourrait faire justement pour montrer tout ce côté que les citoyens ne voient pas ?
Moi, je vois qu'une chose, vis ma vie, quoi. Venez faire une journée dans la police et vous verrez. C'est juste ça.
Et qu'est-ce que vous pensez de la police de proximité ?
Ça, c'était le truc le plus génial au monde.
Parce qu'on aimerait moi, bien que ça désolée, revienne.
Mais s'il y avait eu de la police de proximité dans les quartiers, moi, je suis rentrée dans la police s'il y avait la police de proximité. J'adore la police de proximité. Je trouve que les patrouilles pédestres, mais c'est un truc de dingue, que si les gens ils nous voyaient plus souvent, et s'ils avaient l'habitude de nous voir, ils viennent plus souvent nous parler, ça a été un truc qui était génial à la base. Mais le problème, c'est qu'on est tellement peu nombreux qu'on ne peut plus faire de police de proximité. On avait des brigades de 40 qui étaient implantées dans plein de quartiers. Maintenant, on a des brigades de 5. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Merci beaucoup.
Pas hein, de rien, il n'y a pas de souci.
Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. Elle était restée fermée depuis un an. La salle du Bataclan à Paris rouvre ses portes ce soir pour un concert de Sting en présence des familles et des proches des victimes du 13 novembre. C'est le temps fort de ce week-end de commémoration débuté hier soir par une minute de silence au Stade de France.
France Inter.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, ce soir, d'abord, se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque il y a un an. Nous ne les oublierons pas.
Je m'appelle Léa, je suis policier. Je suis intervenue le 13 novembre sur les attentats. Et je connais Caroline depuis un petit peu après les attentats. On s'est rencontrés sur la toile.
Donc, je m'appelle Caroline Anglade. Je suis présidente de l'association Life for Paris, qui est une association des victimes du 13 novembre. Et donc, effectivement, ça va faire un peu plus d'un an maintenant qu'on se connaît avec Léa.
Bonjour, un tel, un nom, s'il vous plaît.
Un café pour moi, merci.
Après les attentats, je me suis sentie d'abord très seule, pas très bien. J'ai fouiné un peu sur la toile et puis j'ai vu en premier lieu, enfin je pense avoir été parmi les premières à avoir l'appel de Maureen Roussel, celle qui est à l'initiative, je pense, Caroline, tu ne me démentiras pas, de l'association Life for Paris, et qui avait lancé un appel sur la toile, donc sur Facebook, appelant les victimes des attentats à se faire connaître. Donc j'avais mis un petit mot en disant que je n'étais pas une victime des attentats, mais qu'en effet, j'étais intervenue ce soir-là et que ça m'intéressait aussi, si on m'acceptait dans le groupe, de parler de tout ça, mais que ce n'était pas une obligation. Et voilà.
Pour vous, Caroline, quelle particularité a ce lien avec Léa ? Le fait qu'elle soit policier, le fait qu'elle ait été présente le 13, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Alors Léa n'est pas seule en fait chez nous. On a reçu beaucoup de policiers, beaucoup de pompiers. Je crois qu'il y a un vrai besoin parce qu'il y a une vraie souffrance. On a eu vraiment l'impression de tous être dépassés par la violence ce soir-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous lie. Moi, je trouve que les policiers ont fait vraiment un travail extraordinaire, exemplaire ce soir-là. On est plus tourné vers la vie, en fait, parce que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de réparer les vivants. Donc c'est vrai que c'est important pour nous, quand on rencontre des gens qui sont intervenus le soir du 13, de pouvoir juste les serrer dans les bras et leur dire merci. Je crois que c'est vraiment important. On est dans des sociétés où, au final, les gens font leur travail. Les policiers, les pompiers, c'est leur fonction. Mais à un moment donné, là, je crois qu'on a vraiment largement dépassé le cadre de la fonction pure et dure. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir dire merci à ces personnes.
Alors, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous voyez souvent ? Et qu'est-ce que vous vous racontez ?
Voilà. On se voit pas souvent, on se raconte beaucoup, enfin, c'est par période. On a fait des très belles choses, on a fait une chose qui s'appelle le baiser du Bataclan, donc Caroline m'a invitée, elle tenait à ce que je sois sur ce petit clip qui est vraiment magnifique, qui, je trouve, n'a pas eu une publicité énorme, et ça, il faut donc aller cliquer sur le baiser du Bataclan, c'est quelque chose de très beau et je trouve très positif et très esthétique. Et puis, moi, je suis allée à certains apéros aussi, l'apérothérapie, comme l'appelle l'association, voilà, où on se rencontre, on discute, ou pas forcément d'ailleurs, et souvent pas du tout d'ailleurs, des attentats. Et puis, effectivement, ce sont des gens qui peut-être ne se seraient jamais penchés sur notre sort de fonctionnaire de police. Et donc, moi, je me suis, en tant que policier, depuis... C'est malheureux à dire, mais je me sens davantage aimée, en tout cas, par un panel de personnes, tous très différents. Et voilà, donc ça nous a fait du bien d'être connus aussi, non pas pour des gens qui verbalisent d'autres, etc. Enfin, voilà.
Caroline, c'est un lien particulier par rapport au lien d'amitié qu'on peut nouer ?
C'est un lien familial, en fait. Je crois qu'on est vraiment devenu une grande famille. On a une tolérance extrêmement accrue, en fait, vis-à-vis de gens qui sont très différents de nous. Moi, il y a des gens à qui j'aurais pas forcément été amie avant le 13 novembre, qui sont devenus des gens que j'aime énormément. Je dis souvent, c'est difficilement entendable pour ceux qui ne l'ont pas vécu, mais j'ai perdu beaucoup en liberté ce soir-là, parce qu'il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Mais j'ai gagné énormément en humanité, en fait.
Qu'est-ce qui vous fait rire, toutes les deux ?
Moi, ce qui me fait rire, c'est le changement radical. Je vous raconte une petite histoire. Le 13 novembre, dans l'après-midi, j'étais à une évacuation de réfugiés Place de la République. Et je me retrouve à un moment donné avec un policier qui parle très mal à un réfugié. Et je me mets à l'engueuler en lui disant « Tu fais vraiment un métier de merde, j'aimerais pas être à ta place ». Quelques heures plus tard, j'étais dans les bras d'un policier en train de pleurer et de lui dire que je l'aimais profondément et que je le remerciais d'être là.
Ce qui nous fait rire, ce sont nos goûts musicaux. Ils sont extrêmement différents. Moi, j'aime le reggae, voilà, donc la musique... J'aurais pas pu être une victime du Bataclan ce soir-là, quoi, je veux dire. Et puis donc, Caro rigole, elle se moque de moi parce que je vais à Bercy voir Justin Bieber avec ma fille. Enfin voilà, des choses qu'elle... Bon, alors c'est sûr que ça, je la comprends là-dessus, mais voilà, c'est ça. Et puis je sais pas, c'est un peu une relation. On peut être des mois même sans se dire un mot, sans... Voilà, je me souviens que la première fois où on s'est prise dans les bras, on a l'impression de se connaître depuis toujours.
Effectivement, Léa, c'est un peu la grande sœur, en fait. Moi, j'ai un peu cette impression-là avec elle. Elle a beaucoup, beaucoup d'amour et je trouve ça super de mélanger un peu à la fois ses fonctions, c'est-à-dire elle assure notre protection et en même temps, elle assure notre protection du cœur.
C'était Police, le blues et la matraque, un reportage de Nathalie Hernandez, prise de son Philippe Etienne, Yvan Turc et Laurent Macchietti, mixage Claire Levasseur et Basile Beaucaire, réalisation Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe, Zora Ben-Smaili et Fanny Cohen-Moreau. À la semaine prochaine. Crying, one love. Hear the
hurt on mankind, just a savior's own belief.
One love.
C'était Interception. Merci à Philippe Bardonneau. Pour compléter votre information sur le sujet du jour, rendez-vous sur le site internet de l'émission. Vous y trouverez entre autres un article paru sur le site de La Voix du Nord en mai 2016, policier au bord de la crise de nerfs, il nous explique pourquoi, ou encore un article paru sur le site du quotidien Ouest-France, un centre pour policiers fatigués et sous pression.